Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Marion Calais, Julien Cellier, bonsoir à vous deux.
Bonsoir Isabelle.
Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. Ça y est, c'est parti pour deux heures d'actu. On va vous informer, on va vous étonner, puis on va s'interroger aussi. Est-ce que le masque sera bientôt de nouveau obligatoire dans les transports? Le Covid remonte, le nouveau conseil scientifique étudie la mesure. Qu'en pense de son côté le ministre? François Braun sera notre invité de 18h15. Les titres de l'actu maintenant, Marion.
Avec cette assemblée et ses retrouvailles agitées des députés cet après-midi d'incidents, on rappelle à l'ordre, ça a tangué. À suivre aussi la nouvelle bataille des Camailleux pour des conditions de départ décentes. Et puis Marseille, ce soir, dans un vélodrome à huis clos, face au Sporting Portugal. Objectif, ne pas se ridiculiser en Ligue des Champions.
Ouais,
Après deux défaites, quand même, en deux matchs.
18h30, les dessous de l'actu, les leçons du mouvement MeToo, 5 ans après la libération de la parole et le début de ce mouvement, les suites judiciaires ne sont pas toujours, vous l'entendrez, à la hauteur. 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Sini et compagnie. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Menu, s'il vous plaît.
Ce soir, direction la Corée du Nord. Regain de tension militaire dans l'un des pays les plus fermés du monde. Vous allez découvrir la réalité de cet état forteresse. Au menu également, comment l'Arabie Saoudite va accueillir les Jeux Asiatiques d'hiver. Si, d'hiver. Et puis aussi, vous allez rencontrer les seuls Français qui vont voir leur facture d'électricité baisser malgré le froid.
À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbemont. Et puis le temps deux fois par demi-heure avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance pour demain?
Beau, sauf sur le Nord-Ouest.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
L'hémicycle, version chaudron. Première séance de questions au gouvernement sous tension. C'était la rentrée à l'Assemblée.
Et voilà qui promet pour les futurs débats, retraite notamment. Bonsoir Marie Mollet.
Bonsoir.
Vous êtes au Palais Bourbon pour RTL. C'est le parti présidentiel qui a mis le feu aux poudres avec des références appuyées au député insoumis Adrien Quatennens en retrait après avoir reconnu une gifle sur sa femme.
Oui, pour cette rentrée, la patronne des députés Renaissance, Aurore Berger, a décidé de frapper la gauche exactement là où ça fait mal.
Pour Méline, tout a commencé par ce qu'elle appelle une petite gifle. Un coup de poing, puis deux. Alors moi, je le dis aux femmes, dès que vous recevez une gifle, allez porter plainte.
Le thème des violences conjugales et le mot gifle répété encore et encore comme des coups de poignard aux députés LFI qui se décomposent puis s'étranglent au fil des attaques.
Je suis navrée que vous reconnaissiez si bien dans les propos que j'ai exprimés. Oui, nous devons faire mieux. Et ça commence par nos attitudes. Ça commence par le fait de respecter les victimes.
Jubilation du reste de l'hémicycle. Le RN applaudit au comble du plaisir. Les insoumis ulcérés couvrent la voix de la Première ministre. Incident de séance, la présidente de l'Assemblée punie.
Madame Obono,
vous continuez à invectiver l'Assemblée ?
Donc je prononce un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal.
Des élus insoumis qui quittent l'hémicycle pour crier au cirque et au coup de com' comme Clémentine Autain.
Ce que vient de faire Madame Berger est littéralement indécent. C'est une mise en cause de notre famille politique et éhontée.
Et dit-elle, après les affaires Darmanin ou Abad, quel culot, le parti présidentiel n'a aucune leçon à donner en matière de violences faites aux femmes.
Le parti présidentiel, de son côté, par ailleurs secoué par les oppositions après le renvoi hier du garde des Sceaux en procès.
Et en attendant une décision de la Cour de cassation, eh bien Éric Dupond-Moretti l'a dit ce matin, il exclut de démissionner.
Voilà en revanche une mesure qui, semble-t-il, n'est plus exclue. Ce matin, la présidente du comité qui a remplacé le conseil scientifique a dit étudier le retour du masque obligatoire alors que les contaminations au Covid repartent à la hausse.
Alors, qu'en pense le ministre de la Santé? François Braun sera notre invité dans une dizaine de minutes. En tout cas, pour un retour du masque obligatoire, il faudrait une loi et surtout une sacrée dose de pédagogie. Parce que le masque, pour beaucoup, c'est de l'histoire ancienne. Vous l'avez constaté pour RTL, Victor Pourchet dans le métro parisien.
Oui, et quand on s'y engouffre, les écriteaux sont toujours affichés sur les murs, les messages de prévention diffusés.
Bien que le port du masque ne soit plus obligatoire, Il est fortement recommandé.
Pourtant, autour de moi, dans la rame, seulement environ un usager sur 10 le porte. Et ça fait même longtemps que Julien et Yacine ne l'ont pas sorti.
La dernière fois, peut-être quand je suis passé chez le médecin, où il y avait besoin de le mettre quand même pour rentrer. Mais sinon, depuis l'interdiction des transports, je pense.
Le masque, c'est quelque chose que j'ai envie d'oublier, sur lequel j'ai pas envie de revenir. Et voilà, ce serait une peine, en fait.
Pour d'autres, c'est un peu plus intermittent. Sandra ne l'a pas mis aujourd'hui, mais elle l'assure.
Le matin et le soir, quand les transports sont bondés, je le fais déjà naturellement. J'en ai toujours avec moi. Je pense qu'il faut qu'on soit sérieux et qu'on le remette.
Pendant qu'elle descend les escaliers qui mènent au quai, Mireille, elle, décroche le masque de son poignet pour l'enfiler. C'est sa petite routine.
Quand je prends le bus, quand je prends le métro, j'essaye.
Le rendre à nouveau obligatoire, vous en pensez quoi ?
Écoutez, chaque personne doit avoir un peu de jugeote.
Et vous avez envie de leur dire quoi à ceux qui vraiment ne le portent jamais ?
Qu'il faut essayer de protéger les autres. C'est pas envers soi, c'est un geste civique.
En faire un réflexe citoyen, c'est bien l'ambition des autorités. Mais pour l'imposer, elles devront passer par un nouveau texte de loi.
Voilà, de la jugeote, donc, dit cette parisienne au micro de Victor Pourchet et la réponse donc de François Braun, le ministre de la Santé, dans une dizaine de minutes maintenant.
Après le coup de massue de la fermeture, la nouvelle bataille des salariés de Camaïeu, une trentaine d'entre eux se sont invités ce matin dans le hall du siège de l'entreprise, c'est à Roubaix.
Occupation symbolique que vous avez suivie pour RTL, Franck Hanson, avec un objectif clair, hein, obtenir des indemnités de licenciement conséquentes.
Oui, ces salariés se retrouvent encore un peu sonnés devant les grilles de l'entrepôt Camaïeu où ils se croisaient tous les jours avec leurs délégués CGT, Sandrine et Jean-Philippe, espèrent pouvoir rebondir dignement et comptent donc faire payer leurs actionnaires.
C'est pas possible que l'histoire elle s'éteigne comme ça, quoi. Faut qu'on se batte ensemble, faut qu'ils assument leurs responsabilités quand même.
Si c'était pour nous racheter et 2 ans après nous foutre à la porte, bah ça servait à rien de nous racheter. On attend déjà nos papiers de licenciement.
J'ai plus rien à perdre, on nous a menti pendant des années. Il y a eu de l'argent qui était là et qui a été dépensé un peu n'importe comment, on a déjà des documents. On a tous des familles, on a tous des enfants, donc faut qu'on soit là pour eux aussi.
Il faut s'attendre à un plan social au ras des pâquerettes, prévient l'avocat Fyodor Rilov, à l'origine de cette procédure pour obtenir réparation.
Des indemnités en pièces sonnantes et trébuchantes pour des salariés qui, au moment où ces indemnités, je l'espère, leur seront versées, seront probablement encore à Pôle emploi, en tentant de retrouver du travail dans un bassin qui est totalement sinistré.
Des manifestations sont prévues prochainement à Roubaix et Paris, mais certains de ces ex-camailleux ont déjà jeté l'éponge.
Ouais, les premières consultations se dérouleront vendredi en vue du plan social.
Là, pour le coup, ni consultation ni discussion, mais jusqu'où ira la Corée du Nord ?
Après le tir d'un missile balistique la nuit dernière, qui a même contraint Tokyo à déclencher son système d'alerte. Bonsoir Bénédicte Tassard.
Bonsoir.
Ce tir intervient en plus dans un contexte d'intensification des essais par Pyongyang.
Ah, c'est du jamais vu. Une trentaine d'essais depuis le début de l'année, principalement des tirs de missiles de courte portée. 5 tirs en 10 jours dernièrement, avec le plus souvent une trajectoire en forme de boucle pour que le missile retombe près de son site de lancement sans survoler les pays voisins. Mais aujourd'hui, on change de dimension avec ce missile balistique à portée intermédiaire et le premier survol du Japon depuis 2017.
Et ce qui est maintenant redouté, c'est un nouvel essai nucléaire.
Ah oui, les renseignements américains et sud-coréens constatent de l'activité dans le tunnel souterrain du site d'essai nucléaire. C'est une région montagneuse dans le nord-est du pays. On s'attend à un essai entre le 20e congrès du Parti communiste chinois dans une dizaine de jours et les élections mi-mandat aux États-Unis. Vous savez, les Nord-Coréens, ils choisissent toujours une date avec une portée politique. Il y a déjà eu 6 tests de bombes atomiques depuis une quinzaine d'années. Dernièrement, Kim Jong-un a modifié la constitution de la Corée du Nord, incluant 5 scénarios justifiant une attaque nucléaire préventive, comme par exemple une menace contre le dirigeant suprême.
Merci Bénédicte Tassard. En Ukraine, après l'Est, nouveau revers russe, cette fois dans le sud du pays, notamment dans la région de Kherson, récemment annexée. Le chef de l'occupation russe a appelé la population à ne pas paniquer.
Allez, petite pause dans votre journal, dans RTL Soir, et dans un instant, sobriété forcée cet hiver. Pour certains d'entre vous, pour près de 5 millions de foyers, le chauffe-eau sera automatiquement coupé en cas de tension sur le réseau. On vous explique tout juste après ça. Vous restez avec nous.
Julien Cellier.
RTL Soir jusqu'à 19h15.
RTL Soir.
Julien Cellier, Marion Calais.
Bonne fin de journée, 18h10. RTL Soir continue votre journal également. Après les appels à la sobriété, après la promesse de récompenses sonnantes et trébuchantes en échange d'économies d'énergie, eh bien voici venu, pour certains d'entre vous, l'éco-geste forcé.
À partir du 15 octobre prochain, Enedis, le gestionnaire du réseau d'électricité, va pouvoir, en cas de besoin, couper l'alimentation des chauffe-eau de certains foyers.
Alors Armelle Lévy, vous allez tout nous expliquer. Bonsoir.
Bonsoir.
D'abord, qui est concerné ?
Environ 4,5 millions d'abonnés. Vous êtes concerné si vous avez un compteur Linky, si vous avez un chauffe-eau électrique, je dis bien électrique, pas gaz, et si vous avez un abonnement avec des heures creuses entre 11h et 15h.
Alors ces coupures, elles peuvent intervenir n'importe quand. On sera prévenu ?
Ah oui, vous serez prévenu au moins une semaine à l'avance. Avant un gros pic de consommation, vous recevrez un message pour vous dire que ce jour-là, le compteur Linky va désactiver l'enclenchement automatique de votre chauffe-eau entre midi et deux, ce qui veut dire que votre cumulus va chauffer la nuit et non plus le jour. Mais rassurez-vous, comme l'eau stockée la nuit reste à température dans le ballon, elle sera encore chaude la journée quand vous l'utiliserez.
Bon, pas de douche froide.
On est rassuré. Deux heures de coupure, potentiellement, ça représente quoi comme économie ?
Ah, c'est énorme, ça représente la production de 3 réacteurs et demi, ça peut éviter une panne générale d'électricité.
Dernière petite question Armelle, on découvre là quand même que ces compteurs hein, connectés Linky, ils ont la main sur notre cumulus. Est-ce qu'il y a d'autres appareils à la maison qui pourraient ensuite aussi être concernés par ces coupures ?
Non, Enedis dit avoir la main uniquement sur le chauffe-eau parce qu'il y a deux fils qui relient le compteur Linky directement au cumulus pour enclencher le système des heures pleines et des heures creuses.
Des coupures qu'Enedis ne pourra de toute façon pas pratiquer au-delà du 15 avril prochain. Dans le secteur de l'énergie, les mots remarqués aujourd'hui du patron du groupe pétrolier Shell qui a appelé devant certains de ses homologues énergéticiens à accepter une taxation du secteur, soulignant les dommages que l'évolution des prix inflige aux plus pauvres.
RTL Soir.
Pas le droit à l'erreur. Après 2 défaites en 2 matchs en Ligue des Champions, l'OM reçoit tout à l'heure le Sporting Portugal.
Ah oui, tout à l'heure. C'est dans une demi-heure maintenant à 18h45 très précisément. Bonsoir Hugo Hamelin.
Bonsoir.
Vous êtes déjà au Vélodrome pour RTL où le coup d'envoi sera donné tout à l'heure. Défaite donc interdite. Hein.
Exactement. Et vous entendez cette ferveur derrière moi ?
Oh là là.
Non, ah, raté.
Et c'est normal, c'est normal. Le stade est presque vide. Effectivement, pour l'Olympique de Marseille, pas de 12e homme ce soir. Igor Tudor va aligner son équipe la plus expérimentée avec Eric Bailly, avec Chancel Mbemba et surtout avec l'attaquant chilien Alexis Sanchez. Une 60aine de matchs au compteur en Ligue des Champions pour l'attaquant chilien. Marqué enfin, hein, puisque l'OM n'a pas mis un seul but sur ces deux matchs. Ne pas être écrasé par la pression de faire un bide dans cette compétition. On a l'impression que c'est un peu ça qui empêche les Marseillais de bien jouer. Donc voilà, défaite interdite ce soir face au Sporting.
Ouais, stade vide, vous le disiez, Hugo, parce qu'il y a eu un huis clos imposé par l'UEFA, pour quelle raison ?
Eh bien, pour une poignée de hooligans, tout simplement, et des incidents à répétition. Ça avait démarré la saison dernière en demi-finale de Ligue Europa Conférence face au Feyenoord. Il y avait eu des bagarres à l'extérieur du stade et surtout un tifo UEFA Mafia qui n'est pas du tout plu forcément à l'instance dirigeante du football européen. Il y a également eu des amendes pour des débordements en Angleterre à Tottenham, et puis ces incidents qu'on avait suivis face à Francfort, les feux d'artifice, les fumigènes jetés d'une tribune à l'autre, plus de 40 000 euros d'amende, et ce match à huis clos qui était en sursis donc après les incidents face aux Hollandais et qui tombe ce soir ce huis clos. Punition collective puisqu'il n'y a pas eu de sanctions individuelles malgré les 136 caméras que compte le stade.
Que c'est triste, un match de Ligue des Champions à huis clos. Ce sera tout à l'heure à 18h45
Marseille.
Ce Marseille Sporting, surtout à Marseille, vous le savez mieux que nous cher Hugo. On pourra suivre le match avec vous sur l'appli RTL et sur RTL.fr et bien entendu en fil rouge dans RTL Soir. Merci beaucoup Hugo, merci Marion, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Le temps Peggy pour demain, ça dit quoi ?
Encore du soleil Julien, après dissipation des grisailles matinales sur la majeure partie du pays, sauf sur un quart nord-ouest entre les Pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, le Nord. Là les nuages seront nombreux avec des pluies le matin sur la pointe bretonne. Dans l'après-midi, elles vont se décaler entre la Bretagne, l'intérieur de la Bretagne et la Normandie. Et des nuages également toute la journée sur le Languedoc-Roussillon. Le tout sous des températures en hausse et même le matin, ça va faire du bien. De 8 à 14 globalement et jusqu'à 16 dans le sud. Et les maximales de 17 à Cherbourg, écoutez bien, jusqu'à 29 degrés à Tarbes. Dans le sud-ouest,
29.
C'est là qu'il fera le plus chaud, exactement. 28 à Agen, 27 à Bordeaux, 25 à Lyon, 24 à Marseille, 23 à Nancy et Orléans, 22 à Paris et Nantes et 20 à Lille.
Merci Peggy. Petite pause et puis ensuite cette question dans RTL Soir. Est-ce que le masque peut redevenir obligatoire ? Le nouveau conseil scientifique qui réfléchit. Quid du ministre de la Santé ? Eh bien François Braun sera avec nous juste après ça, au moment où les chiffres du Covid remontent. A tout de suite.
Julien Cellier.
RTL Soir jusqu'à 19h. Julien Cellier.
L'invité d'RTL Soir.
Bonne fin de journée, vous écoutez RTL Soir et au moment où s'ouvre la campagne automnale de rappel de vaccins contre le Covid, et bien notre invité maintenant est le ministre de la Santé. Bonsoir François Braun.
Bonsoir.
Alors un mot des chiffres, ça remonte malheureusement, 45 000 cas en moyenne par jour, plus 30% en une semaine. Ce matin, la présidente du COVARS qui remplace le conseil scientifique, Brigitte Autran, a indiqué que le retour du masque obligatoire, alors par exemple dans les transports, était étudié. Est-ce que vous confirmez cette à l'étude ?
Oui. C'est à l'étude, comme toutes les possibilités sont à l'étude dans le sein de ce conseil scientifique. C'est son rôle d'étudier toutes les possibilités, de faire des propositions. Et donc ce port du masque, comme le fait de recommander simplement le masque à nos concitoyens lorsqu'ils sont dans des lieux un petit peu bondés, c'est tout à fait normal que ce soit dans les réflexions actuelles de ce conseil.
Et vous y réfléchissez ? Est-ce que vous étudiez un retour de l'obligation ?
Dans cette pandémie qui traîne maintenant depuis 3 mois, il faut être extrêmement prudent et humble. Donc je suis les affaires au jour le jour, mais vous le savez, je l'ai déjà dit il y a quelques mois, je veux faire confiance aux Français, je veux que les Français reprennent les gestes barrières, c'est ça qui est important.
Donc là, vous leur dites ce soir à nos auditeurs, retrouver le réflexe, porter le masque, mais alors où ? Dans les transports, les magasins, au bureau
Porter le masque dans tous les endroits où on est très proches les uns des autres, où il y a une forte concentration de personnes. C'est d'autant plus intéressant que ça fonctionne pour le Covid, bien sûr, mais aussi pour la grippe qui arrive, mais aussi pour les virus des bronchiolites de l'enfant. Quelque part, ce sont des réflexes sains dans cette logique de prévention que je veux conduire aussi au sein du ministère de la Santé.
Donc vous faites appel au bon sens des Français, mais on voit aujourd'hui, par exemple, dans une rame de métro ou de train, qu'on peut compter sur les doigts d'une main les visages masqués. Est-ce que si le bon sens ne suffit pas, il faudra peut-être au cœur de l'hiver revenir à quelque chose de plus sévère et une obligation ?
Nous verrons, comme l'a dit le professeur Autran, tout est sur la table, tout est envisageable. Mon rôle est de protéger nos concitoyens, est de protéger les plus fragiles, comme d'habitude. Ce sont toujours les mêmes qui sont identifiés par la Haute Autorité de Santé. Donc, je ne m'interdis rien, comme dans les discussions, je n'ai pas de tabou.
Et cette huitième vague, parce qu'on vient de repasser la barre des 15 000 patients Covid à l'hôpital, est-ce qu'elle vous inquiète ou est-ce que vous pensez qu'elle sera moins forte que les précédentes ?
Comme je vous le disais, il faut être vigilant, pas forcément inquiet, mais je n'ai pas non plus de boule de cristal qui me dira si cette vague est plus intense qu'une autre. Et même si j'avais une boule de cristal, je ne la croirais pas. Par contre, je croirais ce conseil de veille et d'alerte du professeur Autran et je vais rester en discussion avec eux très rapprochés.
Alors la campagne automnale de rappel a été lancée hier avec des nouveaux vaccins adaptés à Omicron. Alors petite piqûre de rappel justement avec la brigade RTL et Virginie Guérin. Bonsoir Virginie.
Bonsoir à tous.
Qui peut être vacciné ? Qui est éligible là ?
Eh bien ce sont les personnes les plus fragiles qui ont le plus de risques d'avoir une forme grave, donc les plus de 60 ans, les personnes qui souffrent par exemple de diabète, d'hypertension, les femmes enceintes, les immunodéprimés. Et puis, il est recommandé aussi pour les entourages de ces personnes et les personnels soignants.
Est-ce qu'il faut un délai avec la dose précédente ?
Oui, il faut respecter un délai à partir de la dernière dose qu'on a reçue ou de la maladie si on a eu le Covid. Donc, c'est 3 mois pour les plus de 80 ans et les résidents d'EHPAD et 6 mois pour les autres.
François Braun, vous le ministre de la Santé, ces nouveaux vaccins adaptés au Omicron, en quoi ils sont plus efficaces ?
Alors, ils sont plus efficaces parce qu'ils ciblent en fait deux souches de ce virus, la souche dite historique et cette variation Omicron, en particulier BA1 aujourd'hui, BA5 demain. Le laboratoire nous montre qu'ils sont un peu plus efficaces, mais pour autant, le vaccin d'origine est toujours efficace, y compris sur Omicron.
Les nouveaux vaccins, est-ce qu'ils agissent sur la transmission, la contamination davantage ?
L'intérêt des vaccins est d'agir sur les formes potentiellement graves. Éviter les formes graves. Je crois qu'il faut vraiment qu'on reste sur cette logique. C'est pareil avec la grippe. La vaccination ne protège pas de faire une infection bénigne, mais elle protège les formes graves. Elle protège nos concitoyens les plus fragiles. Ça vient d'être dit. En cela, elle est essentielle.
Un tiers seulement des 60-79 ans sont allés faire leur quatrième dose alors qu'ils y avaient le droit jusqu'ici. Est-ce que vous pensez vraiment que cette nouvelle campagne, elle va fonctionner ? Est-ce que les Français ont encore envie d'entendre parler du Covid et de tendre leurs biceps ?
Je pense que les Français ont compris maintenant ce qu'étaient les messages de prévention et l'intérêt de cette vaccination. Personne ne veut revivre ce que nous avons vécu il y a 2 ans. Moi, le premier. Je pense que faire appel au bon sens, à la conscience des Français, est la meilleure des solutions.
François Braun, autre sujet qui touche nos auditeurs au quotidien, les déserts médicaux. Vous étiez au Mans hier pour lancer le volet santé du Conseil national de la refondation, le défi de l'accès aux soins. Une nouvelle concertation s'ouvre, mais c'est vrai qu'on connaît déjà le diagnostic. Un Français sur 10 n'a pas de médecin traitant, il manque 6 000 médecins dans les campagnes. C'est aussi très compliqué, par exemple, en région parisienne. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une énième concertation ?
Ce n'est pas une énième concertation. Ce ne sera pas une énième concertation. Vous le dites très bien, le diagnostic est connu. Je ne vais pas revenir sur le diagnostic. Il est partagé par tout le monde. Ce qui m'intéresse dans le CNR Santé, ce sont les solutions. Et c'est ça que j'étais allé chercher au Mans. Mmh. C'est ça que les équipes sartoises nous ont proposé en ayant travaillé vendredi déjà sur les sujets.
Donc on n'aura pas la même solution au Mans et à Besançon et à Marseille ?
Exactement. C'est le principe de la boîte à outils que j'ai développé déjà cet été. Les problèmes sont globalement les mêmes, mais effectivement, les besoins de santé de la population ne seront pas les mêmes au Mans, à Marseille ou dans l'Est de la Moselle.
Comment on incite les jeunes généralistes aujourd'hui à aller exercer dans les déserts médicaux ? On parlait d'une quatrième année d'internat où on les enverrait dans ces déserts-là. En tout cas, on les inciterait à y aller. Est-ce que c'est une piste ? Est-ce que ce sera suffisant ?
Les pistes sont essentiellement de donner envie et de faire connaître ces territoires. Alors, il n'y a pas de solution miracle. C'est pas une solution qui va permettre de tout résoudre. Mmh. Quand on dit ça, quelque part, on ment aux Français. Et je ne suis pas celui qui va leur raconter des histoires. Dans les solutions efficaces rapidement, il y a les assistants médicaux qui permettent d'augmenter la patientèle des médecins. Il y a aussi des incitations qu'il faut, y compris financières, qu'il faut qu'on rende plus simple, plus lisible. Donc, vous voyez que la boîte à outils va comporter un certain nombre d'outils pour faciliter cette installation dans les territoires.
Virginie Garin de notre service santé.
Je reviens juste au vaccin. Il y a donc ces nouveaux vaccins pour les plus fragiles, mais il y a des quantités importantes de stock des anciens vaccins. Est-ce qu'ils sont toujours efficaces ? Est-ce que vous recommandez à toute la population de faire un rappel, par exemple, au bout de 6 mois ?
Les vaccins originaux sont toujours efficaces, oui. A fortiori, si vous n'avez jamais été vacciné et que vous n'avez pas fait la maladie, faites-vous encore vacciner. Et ils sont tout à fait utilisables dans une campagne de rappel, bien sûr.
Et une quatrième dose pour tous, pour le coup, c'est à l'étude ?
Ce ne sera pas obligatoire, en tout cas dans la situation actuelle, mais une quatrième dose pour tous, pourquoi pas ? Ce n'est pas parce que nous avons un public cible qu'on va empêcher les gens de se faire vacciner. Et d'ailleurs, vous l'avez rappelé, ce qui est très important aussi, c'est l'entourage des personnes. Donc, les personnes qui sont en contact avec des personnes âgées et fragiles, je les invite aussi à se faire vacciner.
Pour terminer, François Braun, vous avez peut-être entendu le témoignage très très fort hier matin sur RTL de Ludivine et Théo, sont les parents du petit Kellig, décédé quelques semaines seulement après avoir mangé une pizza Buitoni. Ils vous ont interpellé à l'antenne hier, ils indiquent que ni le gouvernement ni Nestlé ne les ont contactés directement, écoutez-les.
Pour l'instant, on a l'impression qu'ils cautionnent en fait. Il y a une enquête qui est ouverte, mais il n'y aura pas de procès pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de mise en examen. Donc on a l'impression que la justice et l'État sont d'accord avec ça. On peut tuer des enfants parce qu'on a de l'argent.
On entend leur douleur, ils ont l'impression que le gouvernement cautionne, que la justice traîne beaucoup trop. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir ?
J'ai envie de leur dire d'abord mon soutien. Il y a eu 2 décès d'enfants dans cette affaire et c'est totalement inacceptable. J'ai trop dans ma carrière dû devoir annoncer des décès d'enfants à des parents et bon, c'est inacceptable. Je veux surtout leur dire que, bien entendu, le gouvernement, mon ministère ne se résigne pas, absolument pas. L'enquête, vous l'avez dit, est en cours. Elle ira à son terme. Toutes les responsabilités sont recherchées et seront traduites dans la justice dès qu'il y aura lieu. Mais en tout cas, vraiment, je veux leur apporter mon soutien et je suis à leur disposition, qu'ils n'hésitent pas.
Merci François Braun, ministre de la Santé, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL. Merci.
Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
Allez, dans quelques secondes, RTL Soir, la suite avec vos dessous de l'actu, les dessous du mouvement MeToo. En tout cas, quelles leçons en tirer ? 5 ans après, quasiment jour pour jour, la parole s'est considérablement libérée, mais les suites judiciaires ne sont pas toujours à la hauteur. Et puis, laissez-vous tenter dernière avec une rencontre que l'on vous propose avec un sage, écrivain, guide spirituel. Il est un petit peu des deux à la fois. Christian Bobin sera avec nous. À tout de suite sur RTL.
Jusqu'à 19h15,
RTL Soir avec Julien Cellier. RTL, s'informer ensemble.
18h30, vous écoutez RTL Soir.
RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais.
Allez, bienvenue si vous nous rejoignez. Si vous allumez la radio à l'instant, les trois titres de l'actu à retenir avec Marion Calais.
Pas de commentaire de l'armée russe, mais ses cartes parlent pour elle et elle montre un nouveau recul important de ses troupes en Ukraine, non plus à l'est, mais au sud cette fois du pays, dans la région récemment annexée de Kherson. La récompense ultime pour un Français, Alain Aspé, Nobel de physique, aujourd'hui avec deux autres chercheurs récompensés pour leurs études, hein, ayant montré que l'état de particules peut être lié, quelle que soit la distance qui les sépare. Voilà. Et puis la Ligue des Champions, l'OM face au Sporting Portugal, coup d'envoi dans moins d'un quart d'heure maintenant, troisième match en Ligue des Champions et l'OM qui espère une première victoire dans la compétition.
Ouais, 18h55, coup d'envoi reporté parce que le bus est en retard des Portugais. Je comprends mieux le foot que les particules. vous l'avez compris. Le temps pour demain, Peggy.
Une très belle journée après dissipation des grisailles matinales, sauf sur le nord-ouest où là on a beaucoup de nuages et des pluies le matin sur le Finistère, dans l'après-midi entre l'intérieur de la Bretagne et la Normandie. Et il fera gris également sur le Languedoc-Roussillon toute la journée. Les températures sont en hausse, 17 à 25 dans l'après-midi au nord, 23 à 29 au sud.
Merci Peggy.
RTL Soir. Les dessous de l'actu.
Et les dessous, maintenant, des leçons à tirer du mouvement MeToo. Ce mot-clé lancé le 15 octobre 2017, donc il y a quasiment 5 ans jour pour jour. Alors dans le monde du cinéma, tout d'abord, pour inciter à l'époque les femmes victimes de harcèlement sexuel à s'exprimer. La parole s'est libérée chez les célébrités, chez les inconnus. 5 ans plus tard, donc quelles leçons peut-on en tirer ? Bonsoir Anne Le Hennaff.
Bonsoir.
Parole libérée, ça se chiffre d'ailleurs.
Oui, les associations annoncent que le nombre de faits de violence sexuelle a fait un bond, plus 82% en 5 ans. C'est bien le signe que les femmes parlent, que MeToo n'est pas une mode mais un phénomène de fond. Anne-Cécile Maillefer préside la Fondation des Femmes.
La parole, elle s'est libérée de manière assez massive. Et ça a touché des couches très différentes de la population, des milieux très différents, aussi bien à la campagne qu'à la ville. MeToo, c'est devenu vraiment un sujet dont on a discuté, y compris lors des dîners de famille. Et ça, c'est assez inespéré.
Face à cette déferlante qui dure, les associations manquent d'ailleurs de moyens pour aider les femmes victimes. La Fondation des Femmes lance une collecte demain.
Alors, explosion des signalements, mais des suites judiciaires parfois décevantes. En tout cas, c'est le constat des collectifs féministes.
Oui, c'est ce qu'elles disent. Le nombre de plaintes augmente, mais derrière, ça ne suit pas. Les policiers et les gendarmes ne sont pas tous formés, même si des efforts ont été faits. La justice manque de moyens. Il faut par exemple en moyenne plus de 6 ans pour juger un viol sur majeur. C'est ce que déplore Clémence Pageot de la Fédération des centres d'information des droits des femmes et des familles.
Les femmes, lorsqu'elles déposent plainte encore aujourd'hui, font face à des refus de prise de plainte. Dans les procédures pénales, on voit bien qu'il y a encore, je crois que c'est 80% de classement sans suite en pénal. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a encore de très nombreuses femmes qui renoncent à porter plainte. Elles savent aussi qu'il y a très peu de condamnations. Elles connaissent les chiffres.
Et elle compare ces deux chiffres. En 2020, il y a eu 737 condamnations pour viol, c'est un chiffre qui est en baisse, alors que chaque année, 94 000 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol.
Les dessous de l'actu avec Anne Le Hennaff ce soir. Merci beaucoup pour vos explications, Anne.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h34.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et restez à l'écoute parce que nous partons maintenant à la rencontre d'un sage et d'un poète, Bernard Lehu, qui est également un sage et un poète.
Moi, oui.
Ça nous
pas
a rejoint dans ce studio. Bonsoir Bernard.
Bonsoir.
Alors, loin du fracas du monde, Christian Bobin séduit depuis plus de 30 ans maintenant des centaines de milliers de lecteurs et sa maison d'édition, Gallimard, le met à l'honneur en ce début du mois d'octobre.
Oui, en publiant son nouveau livre, Le Muguet Rouge, et un volume réunissant la plupart de ses œuvres, dont deux de ses plus grands succès, Le Très Bas consacré à Saint François d'Assise et La Plus que Vive en hommage à un amour de jeunesse. Christian Bobin, eh bien, c'est l'écrivain de l'émerveillement. Face aux choses simples de la vie, celles qui nous élèvent ou celles qui nous consolent. Exemple, la lecture et avec cette citation extraite du Muguet Rouge. « Mes mains sont ce lutrin fait pour accueillir les ailes battantes d'un livre. »
Ouvrir un livre, pour moi, c'est ouvrir des portes, au minimum, et parfois c'est ouvrir un cœur. Et parfois, c'est ouvrir en lisant notre propre cœur. C'est la présence absolue. C'est étrange parce que quand vous êtes tout seul en train de lire, ce qui est la meilleure façon de lire, eh bien quand vous êtes tout seul avec un livre, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes avec quelqu'un d'autre qui vous fait face dans le silence, qui a fait ce livre et qui vous dit des choses qu'il ne dirait peut-être à personne d'autre. Il y a un entretien de feu secret entre le livre et le lecteur.
Cet entretien, ce feu secret entre le livre et le lecteur, eh bien Christian Bobin qu'on vient d'entendre, réédité hein, par Gallimard, en tout cas une grande partie de ses œuvres, hein, Bernard.
Oui, dans la collection donc Quarto, avec un volume titré Les différentes régions du ciel, l'occasion pour Christian Bobin eh bien, de se pencher sur 30 ans d'écriture avec, vous l'avez déjà entendu à l'oral, la même poésie qu'il met dans ses textes.
Quand je me retournais jusqu'à présent, je ne pouvais pas voir le chemin que j'avais pris. C'est comme si la neige toute fraîche qui descend tout le temps, la neige de la page blanche, elle recouvrait mes traces. À peine un livre fait, je commençais un peu à l'oublier, il commençait à s'effacer pour donner ses chances au livre à venir. Et là, l'avantage du quarto, la merveille du quarto, c'est que je me retourne et je vois le chemin zigzagant que j'ai pu faire. Je vois comment j'ai cherché, comment j'ai échoué, comment j'ai réussi un peu et comment j'ai fait cette traversée qui... évidemment, n'est pas fini.
Oui, elle n'est pas finie pour le plus grand plaisir de ses lecteurs, pour qui Christian Bobin est autant un écrivain qu'une espèce de guide spirituel. Et à lui, Christian Bobin, que lui a apporté ce public fidèle ?
Beaucoup. Une confiance, une amitié. Les moments de signature sont pour moi les plus étranges parce que je vois le visage des personnes, j'entends ce qu'ils me disent. C'est profondément touchant que vous, tout seul, dans votre chambre, un peu sédentaire et même un peu agoraphobe, même encore maintenant, que vous, dans ce puits de solitude, vous ayez créé quelque chose qui parle aussi profondément à un inconnu. C'est une grâce, c'est la grâce des grâces. Et je suis rien s'il n'y a pas d'écho, je suis rien.
Christian Bobin, le poète de l'émerveillement, publie jeudi chez Gallimard Le Muguet Rouge et les différentes régions du ciel.
Poète et sage, vous n'aviez pas menti, cher Bernard. Merci beaucoup pour cette rencontre ce soir dans Laissez-vous tenter dernière. La suite dans RTL Soir, dans quelques secondes à peine, c'est On défait le monde. Les 20 minutes d'info autrement. Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier s'installent. C'est un petit peu le jeu des chaises musicales en ce moment en studio. Bonsoir les amis.
Bonsoir à tous.
Alors la Corée du Nord, ça c'est moins réjouissant. Refait parler d'elle avec un missile au-dessus du Japon. Au fait, à quoi ressemble la vie dans la dictature la plus fermée du monde ? Peur maladive du Covid, famine et secret, on vous explique tout juste après ça.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.